I'm Pamela Nga, and this is the Mindful Entrepreneur Podcast, the Pan-African show for entrepreneurship and culture. Here we laugh, learn, and grow, and sometimes we mix a little bit of French. Cette semaine, sur le Mindful Entrepreneur Podcast, nous commençons une nouvelle rubrique spéciale focus sur les femmes leaders, où chaque semaine, nous dédions un épisode consacré à mettre en valeur les histoires des femmes professionnelles qui ont des parcours inspirantes et dignes des louanges et d'admiration. Comme le dit le dicton, la bonne charité commence toujours par soi-même. Aujourd'hui, nous discutons avec une femme franco-camerounaise, experte en marketing et communication d'entreprise pendant 12 ans. Elle construit sa carrière professionnelle de la base au sommet en occupant des postes stratégiques dans des multinationales comme Orange Cameroun, Yumi et MTN Cameroun. Elle se caractérise comme une force tranquille, souvent là où on ne l'attend pas, débordante de créativité, évoluant le plus souvent dans des sphères masculines où elle apporte sa singularité de femme. C'est un grand honneur d'accueillir pour la première fois Monique Massoa. Allô, bonjour Monique.
Bonjour Pamela.
Comment allez-vous?
Ça va, et vous-même?
Ça va bien. Merci d'avoir accepté d'être l'invité de notre spécial focus Femme Leader. J'espère que vous allez bien.
Oui, très bien. Okay. Comme ça peut aller un week-end. Oui. On prend un peu de se reposer, donc ça va.
Ok. Alors Monique, on va aller tout droit dans votre parcours académique d'abord. Vous avez fait votre cycle primaire et secondaire au Cameroun avant d'aller en France. Parlez-nous un peu de cette expérience de mélange de culture quand vous êtes arrivée en France.
Bon, alors, on voit la France à la télé. On côtoie en fait déjà la culture française de par le fait qu'on est colonisé par cette grande patrie là quand même depuis des années, donc on connaît cette partie de l'histoire au Cameroun, donc c'est pas vraiment quelque chose de nouveau. En tout cas pour moi, ça n'a pas été quelque chose de nouveau, c'est pas ce qui m'a frappé le plus. C'est pas arriver en France, c'est pas l'évolution, les buildings ou en fait le grand espace qui marque l'esprit. En ce qui me concerne, ce qui marque l'esprit chez moi, c'est certainement la façon de faire les choses. C'est-à-dire que les gens sont pressés, tout est pressé, l'heure c'est l'heure. Quand on prend un engagement, eh ben, faut le respecter. Quand on prend un rendez-vous, il faut y être. Et ce formatage-là, en fait, cette façon d'organiser le quotidien, la société, a été la chose la plus marquante pour moi. Et donc, une fois dans cette nouvelle société, dans cette nouvelle culture, je dirais, on se rend compte qu'on va embrasser d'autres challenges, des challenges où on ne prend pas l'initiative de dire des choses comme ça. Quand on prend la parole, quand on décide de déclarer quelque chose, c'est quelque chose qui est vérifié, c'est quelque chose dont on sera plus ou moins certain. C'est un engagement qu'il faudra pouvoir respecter, c'est un horaire qu'il faudra pouvoir respecter. Et donc, ça change vraiment la vision du monde, ça change la façon de s'organiser et c'est un gros challenge. Mais une fois qu'on rentre en fait dans ce moule-là, on se rend compte que bah, beaucoup de choses sont possibles et en réalité, que le secret pour avancer, pour réussir, pour avoir le droit de faire certaines études ou certaines formations, en réalité, c'est d'abord le travail qu'on va prendre à bras le corps, qu'on va décider d'amener un certain palier pour faire partie en fait de ceux qui seront choisis pour faire partie des meilleurs. Donc, c'est surtout ça. Et c'est un challenge permanent. C'est vraiment ça qui a guidé cette période entre la fin de mon cycle secondaire et mes études universitaires, une fois que mes parents ont décidé de m'envoyer faire cette partie de mes études en France. Okay. Voilà.
Alors, en France, vous avez eu votre licence en communication et marketing, communication d'entreprise. Est-ce qu'avant de quitter, vous avez déjà vu votre vie dans une carrière de marketing et de communication?
Non, pas du tout. Okay. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque j'ai terminé la quatrième, lorsque j'ai terminé en fait ma quatrième, j'étais vraiment confrontée au choix de la spécialisation que je voulais faire. Alors, ça a été un choix très difficile parce que le problème ici, au Cameroun, en tout cas à mon époque, je ne sais pas si ça a changé aujourd'hui, L'orientation est quelque chose dont on parle trop tardivement. Et la culture ne nous permet pas forcément de tout de suite être baignés ou de se frotter au monde professionnel. Donc, on reste des enfants dans la tête, on reste des adolescents et on ne sait pas ce qu'on veut faire. Donc, moi, au sortir de ma quatrième, j'ai vraiment eu du mal à choisir. Alors, à un moment, je me disais, ben, je veux faire la série B parce que dans mon rêve d'enfant, je voulais être médecin. Mais j'étais pas la plus douée en tout ce qui concerne la mathématique. Et je me souviens, mon papa me disait, écoute ma fille, il ne faudrait pas que tu ailles dans une série où tu deviendras la grand-mère de tout le monde. Alors j'aimais bien l'image. Et ce qu'il me disait, c'est, il va pas falloir que tu repasses ta classe une, deux, trois, quatre fois. Et alors j'ai dit, ok, bon papa, écoute, je vais prendre la série B. Mais à cette époque, la série B, il y avait Liberman, il y avait d'autres options, et puis il n'y en avait pas tant que ça. Finalement, je me retrouve dans une somme des séries qui allient la B et la G. Alors, je fais la BG à Sakhir, qui plus tard, une année plus tard, va me ramener dans la série G, G2 plus précisément, où j'ai décidé donc de choisir la comptabilité. Donc, en réalité, je sors d'un bac de comptabilité. Et avec mon bac de comptabilité, je vais donc en France. En fait, il faut des équivalences. Donc, on n'a pas eu le temps, en fait, de demander l'inscription dans une université, tout ça. Alors, pour ne pas trop se prendre la tête et parce qu'on était un peu en retard, mes parents ont décidé de me dire, écoute, Monique, tu vas reprendre ta terminale, tu refais une terminale. Et là encore, j'y vais pour une terminale professionnelle en comptabilité. Donc, en fait, j'ai deux bacs. Okay. J'ai un bac comptable au Cameroun et ensuite, j'ai un bac professionnel comptable en France.
Oui.
Et c'est après ça que je me dis, mais Monique, la comptabilité, c'est des chiffres, c'est ennuyeux. C'est pas rigolo, on n'est pas au contact des gens forcément. Tout le temps, on est dans ces plans comptables et on cherche la petite bête à faire en sorte que les chiffres tombent à l'exactitude. Parce que sinon, le plan comptable de clôture, le bilan comptable, il est biaisé, il est erroné. Et je me rends compte que je ne m'épanouis pas du tout. Je ne m'épanouis pas, ce n'est pas marrant, ce n'est pas ce que je veux faire. Il n'y a pas d'ouverture vers l'humain et ça m'ennuie. Et à ce moment... Après mon bac professionnel en France, j'ai décidé d'embrasser plutôt la filière de la communication. Donc, okay. C'est comme ça que j'enchaîne au bout de 2 ans d'université. Donc, j'obtiens mon DEUG en sciences de l'information et de la communication, que je vais donc pousser un peu plus loin pour obtenir une licence en communication. Voilà.
OK. Alors, après votre licence, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu votre expérience dans votre premier poste dans la filière de communication et marketing?
Il faut dire que dans ces filières-là, à un moment, on vous demande de vous professionnaliser. Il faut une expérience terrain. Le tout premier, on va dire, c'est lorsque, en réalité, je commence un stage professionnel, parce qu'à un moment, je décide de ne pas m'arrêter à la licence, de continuer les études et donc de passer des tests d'admission pour être admise en école de commerce, business school. Et une fois que j'intègre donc business school, donc j'ai fait la licence, j'ai fait la maîtrise en université. Lorsque j'obtiens ma maîtrise, je passe donc mes tests d'admission pour des écoles de commerce. Et là, il fallait vraiment se préparer parce que c'était pas les petites écoles de commerce à l'époque. Fallait vraiment être parmi les meilleurs profils. Et donc, j'ai la chance à cette époque-là d'obtenir 3 réponses différentes. Et je fais donc mon choix. Je décide d'intégrer l'ESC Rouen, qui s'appelle Neoma Business School aujourd'hui, qui faisait partie sur le ranking des écoles de commerce, de la 2e école de commerce, je pense, en Europe, qui préparait le mieux les candidats à un master spécialisé pour la stratégie et la communication d'entreprise et le marketing, stratégie marketing. Et de là, on vous demande, ok, c'est bien, vous avez les bons profils, vous êtes de bons candidats pour les entreprises. Maintenant, il faudrait pouvoir avoir vos contrats de stage. Donc, c'est en parallèle. Hein. Vous allez à l'école, 2 semaines d'école, et ensuite, vous êtes en entreprise 2 semaines. Donc, on va dire, c'est une forme d'alternance. Donc là, j'obtiens donc un poste à Merck Serono, qui à l'époque s'appelait Sereno et qui finit par absorber la société Merck dans l'industrie médicale. Et là, je commence mon poste de stagiaire en communication des entreprises, communication, parce qu'en fait, il y a de la communication interne et il y a de la communication externe, donc tournée vers le commercial pour refaire la communication et la commercialisation des produits. Alors, pour moi, qui ai rêvé de communication, de publicité, j'ai été assez surprise parce que, de prime abord, chaque fois que je proposais des idées, on me disait « Mais non, Monique, ça ne fonctionne pas comme ça. Mmh. » Alors, je découvre que l'industrie médicale n'obéit pas du tout aux règles des produits de consommation courante. On ne fait pas de communication sur un médicament comme ça. Ce n'est pas un produit anodin. Il y a des règles. Il y a la haute autorité de santé. Il y a tout le corps médical des professionnels de santé qui ont des normes, il y a l'éthique. On n'y va pas comme ça vers le patient, lui faire une publicité. Et c'est surtout pas le patient qui dit au médecin, écoutez, voilà le médicament que je veux parce que je l'ai vu à la télé ou je l'ai lu dans un magazine. Donc là, on se rend compte que c'est plus informationnel. Il faut informer le public, il faut décrire certes le produit. On ne le vante pas, on le décrit dans ses caractéristiques, on le décrit dans ses risques, on le décrit dans les pathologies qu'il soigne. Et surtout, on travaille d'abord avec les professionnels de la santé pour savoir comment est-ce qu'ils voient la communication sur le produit en question. On travaille sur des colloques, on travaille avec des délégués médicaux. Et c'était vraiment un aspect de la communication qui m'échappait. Parce que moi, je voyais la communication à la télé pour un produit de consommation courante. Et ça devient très intéressant parce qu'on se dit finalement, quelque part, je ne fais pas qu'être un perroquet. Je m'intéresse en réalité à un produit pour arriver à le vendre, à le faire comprendre, à le faire accepter. Et surtout, je suis dans un milieu où je dois m'entourer de personnes qui ont fait d'autres études et qui m'apportent leur savoir dans leur expertise. Et là, ça devient totalement intéressant parce que aucun produit ne ressemble à nous, finalement. Okay. Aucun produit. Autant vous pouvez parler d'un produit sur l'oncologie, donc le cancer, autant vous pouvez parler d'un produit sur la neurologie, ainsi de suite. Et là, on se rend compte que chaque produit dont on va parler est un nouveau challenge, est un nouveau projet. Et là, ça devient très intéressant. Et c'était ça ma première expérience. Côté entreprise, j'ai été très bien accueillie parce que ce sont des milieux où on se connaît. Dans l'industrie médicale, on connaît les professionnels. J'ai été très bien accueillie et ma fierté surtout était que, ayant choisi le challenge d'une école de commerce, à cette époque, j'étais la seule noire de ma promotion et moi, venue de mon Cameroun, je disais « Ah, mais quand même, ça fait un beau parcours, ça fait quand même qu'on se sent valorisé, on sent qu'on fait des efforts pour gagner en valeur, pour gagner en compétences et ça nous permet d'y aller. » Mais bon, c'est pas sans difficulté, il y a beaucoup de difficultés auxquelles il faut faire face parce qu'on est noir quand même. Ça, c'est pas des sujets que les gens acceptent de développer. On est noir et on sait que ce sera pas gagné d'avance pour nous. Là où les autres feront deux pas, nous, on devra en faire trois ou trois et demi pour avoir le droit d'être là, pour avoir le droit d'être écouté. Voilà.
Alors, en 2013, vous êtes rentrée au Cameroun et vous avez occupé un poste à MTN Cameroun dans le département de marketing. Parmi les projets que vous avez pu réaliser, il y a le projet Easy Booster, MTN Prolongation. Est-ce qu'il vous fallait vraiment un grand poste pour retourner au Cameroun? Est-ce que c'était ce qui vous a plus attiré?
Non. Il ne fallait pas forcément un grand poste pour retourner au Cameroun parce que quand j'arrive en fait au Cameroun, pour moi, j'estime pas que c'est un grand poste. Quand j'arrive au Cameroun, j'ai d'abord déjà cumulé assez d'expérience en France. C'est vrai, comme je l'ai dit précédemment, il y a le challenge d'être noir. C'est quelque chose qui passe sous silence. Aujourd'hui, je pense qu'on a beaucoup amélioré les choses parce qu'avec la discrimination positive, avec tout ce que les réseaux sociaux et l'Internet a permis de montrer aux yeux du monde, qu'en Afrique, il y a des talents, il y a du génie, il y a plein de choses et que l'avenir du monde aujourd'hui ne peut pas se compter sans les Africains qui ont une grosse part d'innovation, de créativité à mettre sur le marché mondial. Alors, je cumule une grosse part d'expérience, mais à l'époque, j'arrêtais pas de signer des CDD. Des CDD dans de très grosses boîtes, parce que je fais Total Holding, je fais l'entreprise Merck, je fais Renault. C'est des entreprises qui sont cotées au CAC 40, des grosses entreprises de France, du patronat français. Mais je me dis, je ne peux pas en rester là. c'est pas possible. Je peux pas faire une école de commerce pour en rester là. Je rêve de plus. Je veux pas rester sur la limitation qu'on va me fixer de par ma couleur de peau ou de par mes origines. Je veux plus. Mmh. Et à un moment, c'est ma mère qui me dit, mais écoute, Monique, c'est vrai, tu peux rester en France. T'as pas de difficultés au niveau administratif de tes papiers. Mais peut-être que ton expérience aussi, elle peut parler en Afrique. Alors, je me mets à sillonner des forums qui travaillent un peu avec des profils de la diaspora et qui encouragent, en fait, tout le lobby de la diaspora qui ont fait des études, de bonnes études, en fait, à rentrer dans des pays en Afrique pour faire valoir leur expérience. Et c'est comme ça que je commence à chercher moi aussi. C'est vrai, quand on revient de l'Occident, on se dit « Ah oui, mais je veux un gros poste ». Mais finalement, au fil des entretiens, on se rend compte que les choses sont aussi bien structurées dans certaines entreprises en Afrique et qu'on ne va pas forcément arriver sur de gros postes. On est jeune, l'essentiel, c'est de pouvoir signer dans une entreprise sérieuse, si possible internationale, qui quand même reste ouverte vers plusieurs pays. Voilà. Est-ce que je veux être citoyenne du monde, je veux voyager, je suis très ouverte justement à découvrir différentes cultures. Okay. Et d'ailleurs, je me dis, je ne veux pas forcément rentrer au Cameroun. Malheureusement, les premiers entretiens que je passe, il y en a un qui m'avait très motivée pour une structure immobilière, mais qui faisait également dans l'agriculture, qui avait une vision de développer vraiment l'agriculture en Afrique, mais c'était en Angola. Et je n'ai pas pu finir sur le top 3 des candidats, donc ouais. Ça n'a pas été. Et donc, c'est comme ça que je commence des entretiens également pour certaines structures au Cameroun. Et ça marche bien pour MTN Cameroun. Et MTN Cameroun me fait revenir au Cameroun. Donc, je suis recrutée de la France pour le Cameroun. Et j'arrive donc à un poste assez moyen, je dirais. Mm-hmm. C'est déjà un poste de cadre, ça c'est sûr. C'est un poste de cadre. C'est un poste quand même où les salaires restent très intéressants parce qu'on reconnaît le profil qui vient d'ailleurs, on reconnaît la formation et on se dit, bah voilà, on peut challenger les grosses entreprises du marché. Et voilà, ils me font venir, je rentre. Je suis d'abord à un poste de coordinatrice marketing qui est pas mal et qui d'ailleurs est un poste, quand je dis qu'il est pas mal, c'est un poste qui m'a donné tellement d'expérience parce que ma plus grosse crainte, quand je suis rentrée au Cameroun, c'est de me dire, si je rentre au Cameroun et que ça marche pas et que je dois repartir en France, ce sera quand même une expérience douloureuse parce que pour moi, ce sera pris comme un échec. Et je me souviens, durant l'entretien, on me disait, mais madame Massoua, vous avez jamais fait dans la distribution au Cameroun, au niveau de la culture, vous pensez que vous allez vous en sortir avec les méthodes dans la vente, la distribution, le réseau de distribution? Et je me disais, oui, je suis volontaire, je suis quelqu'un qui recule pas, je suis curieuse, j'aime apprendre et je fais de la communication parce que j'aime aller au contact des gens. Après, les méthodes de vente, ça s'apprend. Donc, je ne pense pas que réellement, c'est quelque chose qui va me rebooter, quoi. Et on me dit, OK, on va tenter, on vous recrute. Donc, j'arrive à ce poste de coordinatrice mass market où je m'occupe en fait de la cible des call box et du mass market, donc le grand public, sur des produits de télécommunication, donc des forfaits, ce genre de choses. Mm-hmm. Et au travers de cette expérience, j'ai appris au niveau du réseau de distribution comment est-ce qu'on distribue le produit télécom, comment est-ce qu'on définit, ça part d'où. Comment est-ce qu'on étudie le besoin du consommateur? Comment est-ce qu'on récolte de la donnée? Parce qu'à cette époque, on entrait vraiment dans le début de la donnée, la collecte, le tri et le cumul de données. Mm-hmm. Alors, comment est-ce qu'on collecte les données? Comment est-ce qu'on les exploite? Comment est-ce qu'on finit par comprendre qui est notre client? Et qu'est-ce qu'on peut lui proposer? Comment est-ce qu'on peut améliorer son besoin ou anticiper? Parce que là, j'entre carrément dans l'analyse data. Et tout ce qui est analyse prédictive du consommateur, tout ça, c'était nouveau pour moi, savoir quel est le taux de vente de mon produit et tout, parce qu'avant, j'étais purement communication. Mais là, à ce moment, je laisse, du moins, c'est pas je laisse, mais je complète l'aspect créativité, l'aspect communication, l'aspect information, parce que j'ai parlé de l'industrie du médicament, il faut beaucoup informer. Et là, j'entre carrément dans tout ce qui est marketing. J'ai des données, je les analyse, je connais mon taux de vente, je connais mon taux d'adoption d'un produit, je l'analyse, j'anticipe même sur ce que pourrait vouloir mon consommateur pour savoir comment je me prépare à lancer le prochain produit. Et ça a été une grande école. L'école MTN, pour moi, a été une très grande école. Donc, du coup, au bout de presque un peu moins de 4 ans, je dirais 3 ans et 8 mois, qui se passe, c'est que je me rends compte que j'ai une très belle école, une très belle formation et que maintenant, je suis prête à monter en compétences pour aller vers de nouveaux challenges. Mmh. Donc, voilà. Et pour moi, ça finit par une expérience totalement positive.
Donc, après, vous êtes partie à Orange, vous êtes partie à Yumin, vous avez aussi réalisé quelques projets là-bas.
Oui.
Alors, Monique, vous avez parlé des quelques challenges que vous avez eu à confronter en France. Et en tant que femme, quels sont ces challenges que vous avez eu à confronter dans votre carrière qui a forgé ce caractère de femme forte, femme qui se bat, qui veut toujours aller de l'avant?
Bon, en réalité, il faut dire que c'est d'abord dans l'éducation. Mm-hmm. D'abord dans l'éducation parce que mon premier héros, c'est mon père. Mm-hmm. Et pour moi, c'était quelqu'un qui touchait à beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Il a touché au sport, il a touché aux affaires, il a touché à la politique. Et j'ai adoré, en fait, la façon dont mes parents nous ont éduqués. Ma plus grosse difficulté, mon plus gros challenge, c'était le fait que je sois une Africaine à la peau noire qui doit s'imposer dans des milieux où elle doit être vue. Et je me souviens, par exemple, d'une conversation que j'avais eue avec ma sœur et des chargés de cours à l'université où on me disait souvent « Attention, Monique, au choix de tes sujets. Attention, Monique, quand, par exemple, tu es en sémiologie de l'image, on va remarquer que tu vas beaucoup utiliser des photos sur des femmes noires. » Et une fois, ma sœur m'a dit « Écoute, mais Monique, tu vas toujours sortir de tes devoirs avec des 11 et des 12. Tu ne vas pas t'en sortir. Tu es trop positionnée sur le côté femme noire. » Choisis d'autres images. Des fois, ça plaît à la société, mais je lui disais non. » Et une autre fois, j'ai eu une conversation avec un cousin à moi, Lucien, c'est parce que s'il m'entend, il faudrait qu'il sache. Il me disait, mais Monique, tu veux entrer dans la communication, mais est-ce que tu es sûre que si tu fais journalisme, par exemple, tu penses que tu vas être à la télé, tu penses que tu vas être montrée à la télé en tant que femme noire sur des chaînes de télé françaises et tout ça? Et je lui disais, peut-être, c'est vrai, tu as raison, mais moi, c'est pas ce que je vois. C'est vrai qu'à un moment, ça m'a fait un peu reculer et j'ai décidé de ne plus vraiment prendre le côté journalistique, mais de rester dans la communication et de parler des sujets qui me plaisent. Et c'était ça mon challenge, savoir que je suis peut-être une Africaine, une Noire, mais je parle le français comme pourrait le parler un Français natif. J'ai le droit de visiter tous les pays, de présenter mes candidatures dans n'importe quelle école de commerce, dans n'importe quelle société, parce que j'ai un savoir que je veux donner. Je suis égale à tout être humain qui a cette même formation. Après, on va devoir nous différencier sur nos énergies, nos personnalités, le fait qu'on corresponde au poste ou pas. Mais je ne veux pas entendre parler de ma couleur, de mon statut de femme. Et donc, c'est toujours ça qui m'a donné la rage d'y aller.
Alors, pour résumer, ce que je retiens de toute cette conversation, c'est que vous êtes une femme qui est née au Cameroun, qui est allée en France pour continuer ses études, mais qui a été confrontée par certaines difficultés, qui a voulu entrer dans une carrière pour s'épanouir et qui n'a jamais baissé les bras, qui a toujours cru en elle-même, cru en ses valeurs, les valeurs qu'elle a pu avoir de son père qui est son modèle. Et aujourd'hui, vous avez 12 ans d'expérience en marketing et communication. Si vous pouvez rencontrer Monique de 12 ans, la petite Monique de 12 ans, qu'est-ce que tu la dirais?
Si je rencontrais la Monique adolescente de 12 ans, je lui dirais la vie, c'est une immensité. C'est une immensité, c'est à un moment des carrefours qui sont difficiles parce qu'on ne sait pas quel est l'axe qu'on veut choisir. Par expérience, ce qu'il va falloir faire, c'est qu'il va toujours falloir choisir par rapport à son moi profond. Qu'est-ce qui nous inspire? Et il ne faut pas rechigner à apprendre. Parce que la plus grande richesse que j'ai aujourd'hui dans mon profil, qu'il soit social ou professionnel, c'est tout ce à quoi j'ai pu toucher. Même quand j'avais l'impression que je n'allais pas dans le sens dans lequel je voulais aller, je me suis rendue plus tard compte en fait que c'est un cumul d'expériences qui peut me permettre d'appréhender certains sujets ou certains projets d'une autre façon. Donc à la Monique de 12 ans, je lui dirais, aie confiance, lance-toi même quand tu as peur, mais si tu penses que c'est ton moi profond, ose la curiosité de découvrir jusqu'où il va ton moi profond. Et dis-toi que la vie, c'est le côté immensité des choses. Les gens, ils pourront être gentils, ils pourront être durs, mais il y aura aussi des personnes qui pourront être généreuses. Et aussi, surtout, je terminerai en lui disant, à chaque fois qu'on ne voudra pas te donner ta chance, sois triste si ça doit te rendre triste. Mais dis-toi, à ceux qui ne voudront pas me donner la chance, eh ben, ils me poussent encore à aller chercher dans moi, à m'améliorer pour être prête pour autre chose. Parce qu'en fait, c'est ça. Chaque fois qu'on vous dira non, en fait, on est en train de vous aider pour autre chose. Voilà. Voilà ce que je pourrais lui dire.
C'est vraiment des bonnes leçons de morale et j'apprécie vraiment votre sagesse. Merci, Monique, d'avoir participé à notre interview. J'espère que vous avez aimé.
Oui, j'ai aimé. C'était très bien. Ça permet de parler de soi.
Ok. Alors, je vais vous souhaiter une bonne journée.
D'accord. Au revoir, famille.
Hey listener, thank you so much for tuning in and listening to our content. I always appreciate that. And also, don't forget to let us know what you think of this episode or any difficulty you're facing as an African entrepreneur. I would love to hear about it. Also, help us grow this content. Help us grow this channel by sharing with a friend or a family. That would be very much appreciated. You can follow us on Mindful Entrepreneur Podcast on Instagram and Facebook, or you can follow me, Pamela Nga, that is Nga_Pamela on Instagram. Until then, see you in the next episode.